est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Quand Merlin eut institué la table ronde, il dit que grâce à ceux qui en seraient compagnons, on saurait la vérité du Saint Graal, dont nul signe n'était visible de son temps.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Ce matin, nous allons redonner vie aux chevaliers de la table ronde. Mais que dis-je ? Leur redonner vie, voilà un propos bien prétentieux, car leur vitalité est demeurée de fait, au long des siècles, à peu près inaltérée. Il s'agit donc bien plutôt d'en considérer les ressorts et d'en comprendre la dynamique. C'est un sujet d'émerveillement, toujours, que la permanence multiséculaire de certains grands mythes devenus, tel celui-ci, universels. Une permanence que permet, d'âge en âge, leur plasticité, leur capacité d'adaptation aux rêves, aux aspirations, aux passions multiformes des époques successives. Voilà une saga qui ne cesse pas d'irriguer depuis ses mystérieuses origines médiévales les œuvres les plus modernes de la création contemporaine, opéra, Wagner, théâtre, cinéma ou télévision, et jusqu'à la bande dessinée. Mon invité, Martin Aurel, professeur à l'université de Poitiers, directeur du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, vient de proposer dans la prestigieuse collection Quarto chez Gallimard, en complicité avec Michel Pastoureau, une édition exhaustive des romans arthuriens traduits de l'ancien français, du latin et du gallois. Je vais m'appuyer sur sa compétence pour éclairer les composantes, les ressorts, la complexité d'une légende. Elle a pris corps au IXe siècle, chantée par des bardes dans un dialecte celtique, et elle a prospéré ensuite, à compter du XIIe, à travers toute l'Europe, grâce à un clerc anglais, puis à ce grand poète que fut Chrétien de Troyes. Par eux se sont imposés les multiples épisodes des aventures du roi Arthur et de ses compagnons chevaliers, Lancelot, Perceval, Gauvin, Galahad, d'autres encore, exploits prodigieux, combats sans merci, conquêtes amoureuses et quêtes du Saint Graal portant relique du sang du Christ sur la croix. Une profusion qui fonde la fécondité de tous les héritages. Et d'abord, je donne la parole à Julien Gracq, dont la seule pièce de théâtre est précisément fondée sur la légende des chevaliers de la table ronde.
Pourquoi je préfère beaucoup tous ces mythes créés au Moyen-Âge, beaucoup aux mythes de l'Antiquité. Soit l'histoire de Tristan et Iseut, soit la quête du Graal, alors les romans de la table ronde m'intéressent beaucoup plus directement, me touchent, me concernent beaucoup plus directement que l'histoire d'Édipe, par exemple, ou tous les grands mythes de l'Antiquité, qui, en général, me laissent assez froid. Je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était des histoires ouvertes. Dans l'Antiquité, c'est la fatalité qui domine, en fait, l'échec. Enfin, l'histoire d'Édipe, à ce point de vue, est typique. Là, il y a une espèce d'optimisme fondamental dans les mythes du Moyen-Âge, alors que le Moyen-Âge est une période pessimiste, au fond plutôt sombre. Mais ces mythes sont des mythes ouverts qui débouchent sur une promesse. L'histoire de Tristan et Iseut, au fond, si on veut, c'est tout de même celle d'une réussite et pas d'un échec, finalement, malgré la mort. C'est un accomplissement. Et dans la quête du Graal, le personnage, finalement, réussit. Il arrive au terme de sa quête et il conquiert l'objet désiré. Il y avait évidemment quelque chose qui me parlait, là, un symbole extrêmement transparent dans le Graal, qui intéressait aussi, bien entendu, le surréalisme. C'était extrêmement proche de ses préoccupations. Mais la question que je me suis posée dans le... dans cette pièce, c'est au fond si cette conquête même possible était désirable, enfin, c'est-à-dire si l'homme pouvait finalement renoncer à sa condition. Et puis la conclusion qui en est tirée dans la pièce est évidemment assez pessimiste, puisque finalement il rejette ce changement, cette solution qui déshumaniserait en fait le personnage.
Martin Aurel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle donc que Julien Gracq avait donné cette pièce, Le Roi Pêcheur, qui a été proposée au public au Théâtre du Montparnasse en 1949, avec Maria Cazares, avec Jean-Pierre Mocky. Ça n'a pas été un très grand succès d'ailleurs, mais on voit là dans le propos de Gracq déjà émerger plusieurs des thèmes, me semble-t-il, que nous allons avoir à considérer jusqu'au surréalisme.
Oui, ces textes de Julien Gracq est passionnant. Cette pièce de théâtre qu'il est en train de présenter, où il évoque le mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Il y a d'innombrables définitions, mais j'aime beaucoup celle qui veut que ce soit un récit offert aux dieux pour s'attirer leur grâce. Julien Gracq fait l'opposition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Mais après tout, on pourrait se dire que le mythe du Graal, au départ, est celui du chaudron de l'abondance que l'on va chercher au-delà des mers, vers des îles fortunées, ce chaudron où vous pouvez tremper votre épée, ce qui lui donnera une force surnaturelle. Mais bien entendu, quand il apparaît au XIIe siècle, ce mythe est complètement transformé, puisque Chrétien de Troyes, qui le reprend, est en train de nous parler d'un vase eucharistique dans ciboire qui porte l'hostie, le corps du Christ consacré à la messe, vers le père du roi pêcheur.
Nous plongeons, grâce à vous, déjà au cœur de ce mythe des chevaliers de la table ronde. Vous évoquez en même temps l'absence de solution de continuité avec l'Antiquité, peut-être, et aussi avec ce qui a suivi. Les relations entre ce mythe qui a été largement païen et le christianisme, cela va être un des points forts de notre conversation. Je le subodore.
Oui, vous avez raison. C'est le bouche à oreille des générations de jongleurs, des maîtres de la parole, des conteurs, puisqu'il faut se mettre dans la peau des gens du Haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Leurs soirées, sans lumière artificielle, se passent à quoi ? Très souvent à raconter des histoires. C'est le principe de la veillée. Et ces histoires pouvaient être des mythes religieux païens, très anciens, mais il y a eu cette déformation. Et quand Chrétien de Troyes a entendu raconter ces histoires, il le dit lui-même d'ailleurs dans la préface du conte du Graal, « Moi, je vais vous raconter la vraie histoire, je la connais, moi. » Donc il y a aussi ce jeu entre la réalité et la fiction qui est très important dans ces mythes.
Vous courez un peu la poste, Martin Aurel, car vous en venez déjà à Chrétien de Troyes, qui a joué un rôle évidemment fondamental dans la diffusion et le succès des Chevaliers à la table ronde. Mais je voudrais que nous commencions, c'est assez logique, par nous pencher sur ce que l'on peut savoir des origines de cette grande affaire. Et elles sont entourées d'ailleurs encore parfois de mystères. On ne sait pas si le roi Arthur, qui est au cœur de ce groupe, des Chevaliers à la table ronde, a existé ou non. Alors racontez-nous les débuts.
C'est un mythe. Arthur, son nom veut dire « l'homme ours ». En langue bretonne, en langue... Alors quand je dis breton, c'est la Grande-Bretagne d'abord, celle qui a été abandonnée par les Romains à partir de 410, puisqu'ils n'arrivaient plus à la défendre face aux attaques des populations germaniques. Les Anglo-Saxons attaquent par l'Est la Grande-Bretagne, et les Bretons, livrés à eux-mêmes, sans les légions, reculent.
Les Celtes contre les Germains, déjà.
Exactement, les Celtes qui étaient une grande population. Dans l'année 1000 avant Jésus-Christ, ils avaient apporté le fer en Occident et cela leur avait apporté une supériorité militaire colossale. Ils maîtrisaient l'Occident avant.
Plus l'influence romaine, en plus, qui les avait, en quelque sorte, modernisés.
Absolument, c'était des gens profondément romanisés, chrétiens déjà. Et ils se réfugient donc dans l'est de l'île, dans les monts Cambriens, c'est-à-dire l'actuel pays de Galles, et certains d'entre eux traversent la Manche pour aller en Petite-Bretagne, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire dans notre Bretagne continentale, armoricaine, et c'est pourquoi on parle encore en Basse-Bretagne, à l'ouest de la Bretagne, une langue qui est très très proche du gallois. Donc là, il y a une grande cohérence.
Alors qui est Arthur? Comment surgit-il dans notre...
Alors Arthur surgit dans un poème des années 550, où des Celtes attaquent des populations germaniques et le barde, puisque c'est une littérature celte récitée par des bardes, raconte un moment, fait l'éloge d'un très grand guerrier, combattant, On est dans les années 550, et il dit, il jetait en pâture les cadavres de ses ennemis au corbeau, bien qu'il ne fût pas Arthur. C'est la première mention.
Bien qu'il ne fût pas Arthur, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait une force colossale, mais qui n'était pas Arthur. Si on fait l'étymologie, la racine du mot Arthur, on sait qu'en langue galloise, Art veut dire l'ours, ou probablement c'est l'homme-ours, et c'est là où nous avons des éléments mythologiques très importants. D'une part, les divinités assurent la reverdie, assurent la fécondité des terres au printemps, après l'hibernation. Or, souvenez-vous, l'ours aussi passe par l'hibernation. Il disparaît pendant l'hiver, il a cumulé de graisse pour supporter cette période dans une sorte de sommeil, et puis tout à coup, il se réveille avec le renouveau de la nature qui va nourrir les hommes, puisque pendant l'hiver, c'est la famine, cela disait, c'est la soudure, comme on dit à l'époque.
Cette toute puissance physique d'origine est importante. On nous explique qu'attaquant les Saxons réfugiés sur une colline, il en aurait tué 496, c'est un chiffre assez imposant.
C'est imposant, c'est Geoffroy de Monmouth, un clerc d'Oxford, qui lui-même est d'origine armoricaine. Hein. Son père est venu au pays de Galles avec le seigneur de Dol de Bretagne pour conquérir cette partie de la Grande-Bretagne avec Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie. Donc c'est un homme qui est imprégné de cette culture, qui adore les mythes qu'il a entendus depuis son enfance. Or, qu'est-ce que c'est que cet Arthur? C'est un homme à la force colossale, tout comme l'ours. On pense à l'ours brun, dont il reste quelques spécimens au 6e, 7e siècle dans les monts cambriens, dans les monts du pays de Galles. C'est-à-dire qu'il existait à l'époque, au début de l'Empire romain, Martial raconte, 1er siècle de notre ère, que dans le cirque de Rome, dans les combats des gladiateurs, on apportait depuis la Grande-Bretagne des ours bruns.
Donc vous confirmez qu'il n'y a jamais de solution de continuité ou de limite, sort toujours de quelque part, et en dépit de l'opposition entre les mythes romains, grecs et romains que faisait tout à l'heure Julien Gracq et les mythes qui lui sont chers, il y a une sorte de...
Il y a une grande continuité, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a des hôtels qui sont consacrés aux ours dans la vallée du Rhône. Mais l'ours lui-même, c'est cette force colossale. Vous voyez aussi ces combattants du haut Moyen-Âge qui sont peu christianisés. Très souvent, ils doivent passer par un rite initiatique quand ils sont jeunes, adolescents, pour intégrer la troupe des guerriers. Et on leur demande de tuer un fauve dont ils vont reprendre les forces. Hein. Donc il y a, pour répondre à votre question, a-t-il existé ou pas, il y a six personnages autour de 550-650 en Grande-Bretagne qui portent le nom d'Arthur. Mais ce sont des fils de rois, de princes territoriaux. Est-ce que ce seraient des héros de la lutte contre les Anglo-Saxons? Ou tout simplement, est-ce que c'est des jeunes qui, parce qu'ils ont tué un ours, se sont appropriés de ses forces et c'est le nom qui leur a été octroyé, c'est difficile à savoir.
Donc, dans cette émergence d'Arthur, dans la conscience collective et dans la littérature, le rôle de Geoffroy de Monmouth, que vous venez de citer, est important. C'est le grand auteur, premier auteur repéré en tant que tel, qui va donner au roi Arthur et aux chevaliers qui l'entourent leur pleine dimension mythologique et bientôt, on va le voir, religieuse et politique. Écoutez donc ce portrait qu'il nous offre, je parle de Monmouth, portrait d'Arthur, qui est ici lu par Jean-Pierre Leroux dans Les Lundis de l'Histoire, il était le comédien attitré de cette belle émission, de Jacques Le Goff sur France Culture, le 11 février de l'an de grâce 2008.
Arthur, vêtu de la cuirasse qui convenait à un si grand roi, se coiffe d'un casque avec dragon, accroche à son épaule son bouclier pris d'Ouesnes, où était représentée l'image de Sainte Marie, Mère de Dieu, afin qu'il en eût le souvenir mieux présent à la mémoire, se ceint de son épée caliburne, qui avait été fabriquée dans l'île d'Avalon, et prend dans son poing droit sa lance ronne, lance longue et large. Il attaque les Saxons, rangés en coin, leur ordre habituel de bataille, et vers la fin du jour, l'ennemi se retire sur une hauteur voisine pour s'en faire une citadelle. Le lendemain, Arthur donne l'assaut, les Bretons, perdant beaucoup de monde, luttent péniblement au sommet de la hauteur. Alors leur chef, tirant Caliburne et invoquant le nom de Sainte-Marie, charge en personne. À lui seul, il tue 470 ennemis et la victoire lui échoit.
Alors rappelez-nous, Martin Aurel, rappelez-nous qui était ce Monmouth auquel la légende arthurienne doit beaucoup.
Oui, Geoffroy de Monmouth a passé son enfance au pays de Galles, c'est un Breton, il adore cette littérature, tous ces mythes qu'il a entendus dans son enfance, et il arrive tout près du pays de Galles, dans la haute vallée de la Tamise, dans une ville qui est en train de devenir le grand centre intellectuel de l'Angleterre, à savoir Oxford. Il vit dans ce qu'on appelle un collège, un chapitre canonial, avec quelques intellectuels. Et parmi ces intellectuels, il y en a un qui s'appelle Gautier, qui, soi-disant, à mon avis c'est une fiction littéraire, lui aurait donné un Liber Vetustissimus, comme on dit en latin, un très très vieux livre, en langue galloise. Donc ça veut dire qu'il savait le gallois, parce que s'il avait raconté des sornettes, on ne l'aurait pas cru. Donc il sait le breton, et à partir de ce livre, il raconte des histoires que personne n'avait entendues sur le vrai roi Arthur.
Dans quelle langue, alors ?
En latin, bien sûr, c'est la langue des clercs. Hein. Nous sommes à 1137, la date de la première édition, comme on dit à l'époque, même si l'imprimerie n'existe pas, de ce manuscrit. L'histoire de roi de Bretagne.
Donc on est passé du vieux gallois au latin. En attendant, nous allons le voir tout à l'heure, le français de Chrétien de Troyes.
Absolument, il y a une transition linguistique qui est très importante, puisque le latin est la langue de culture qui est parlée partout en Occident, que tout le monde connaît, tous les intellectuels, et même un certain nombre de laïcs qui ne sont pas clairs. Et cela va donner au mythe du roi Arthur une diffusion extraordinaire, puisque tout le monde peut lire. Vous savez, c'est le best-seller du Moyen-Âge. On a 210 manuscrits de l'histoire du roi de Bretagne, de Geoffroy de Monmouth. Du point de vue de l'historiographie, de l'histoire, c'est le livre qui a eu le plus de succès tout au long du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que les gens voulaient savoir qui était Arthur, le vrai Arthur. Il écrivait en latin, donc c'est la langue sérieuse, la langue du savoir, la langue qui sera celle des universitaires au XIIIe siècle. Et donc les gens qui écoutaient ces histoires en langue vernaculaire, en langue romane, la langue de tous les jours, maternelle, eh bien, ils voulaient se renseigner sur le vrai Arthur et ils allaient voir Geoffroy de Monmouth. Seulement, le problème, c'est que Geoffroy, c'est un affabulateur de première. Il raconte une histoire qui sort de son imagination. Même quand il cite des auteurs plus anciens que lui, comme Bède le Vénérable ou comme Gilda, il se trompe de passage, il mélange. Et puis, il y a cette histoire du manuscrit retrouvé par miracle, non pas à Saragosse, mais à Oxford. Oui. C'est Liber Vetustissimus, ce livre très ancien que Geoffroy de Monmouth cite comme étant sa source. Bien entendu, cette source n'a jamais été retrouvée. Elle était en langue galloise, soi-disant, et lui l'a traduit, l'a adapté en langue latine.
Vous nous dites qu'il y a une sorte de canular à l'origine de la gloire d'Arthur. C'est
absolument.
C'est une information que nous retenons avec attention, bien
oui,
sûr.
Oui, oui, oui.
Et le passage suivant, évidemment, c'est celui qui conduit à Chrétien de Troyes, qui lui... est le premier grand poète en langue française.
Oui, Chrétien de Troyes est exceptionnel. Je veux dire que, à mon avis, c'est le plus grand auteur médiéval. Il a une capacité de versification, une beauté de la langue. Et puis aussi l'intrigue, le récit, ça rappelle presque nos séries télévisées. Il sait arrêter l'intrigue parce qu'il suit deux ou trois personnages différents dans un roman. Au climax, au moment le plus passionnant et où on voudrait connaître la suite des événements, et il passe à un autre personnage qui a aussi des problèmes à résoudre aussi compliqués. Donc ça se lit vraiment comme un roman, j'allais dire. C'est un roman.
Le principe des romans feuilletons, en somme, il ouvre la porte, le spectacle qu'il vit, le glaçat d'horreur. Nous retrouverons nos héros la semaine prochaine. Et ça explique peut-être aussi pourquoi Camelot, qui est une série télévisée qui a eu beaucoup de succès dans les années 2000, a pu, dans un ton peut-être un peu plus ironique,
retrouver... un ton badin, mais Alexandre Astier, l'auteur de Camelot, lit Geoffroy de Monmouth, par exemple. Il a fondé tout un sketch sur la façon dont a été conçu le roi Arthur du Terre Pendragon, son père et Digerne, sa mère, qui est assez cocasse, hein, telle qu'elle est racontée par Geoffroy de Monmouth. Alexandre Astier reprend le texte du XIIe siècle, traduit en français, bien sûr, tel quel, avec sa gouaille, et ça continue de nous toucher. Donc, vous voyez, c'est un texte qui nous parle encore.
Camelot, ça vient de Camelot, qui est le...
C'est le lieu, effectivement, où la cour du roi Arthur, la cour mythique, où Arthur peut banqueter, où Arthur reçoit ses chevaliers au retour de leurs aventures, qui vont lui raconter ces histoires. Et ce sont ces histoires que couchent par écrit les clercs de son entourage, à commencer par Chrétien de Troyes, dans l'imaginaire collectif, bien entendu.
Et cela explique, au fond, que... Aujourd'hui encore, les mythes arthuriens sont beaucoup plus présents dans les sensibilités contemporaines que, par exemple, les chansons de geste. On voit beaucoup plus Arthur que les quatre fils Aymon.
Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le roman arthurien fait de l'introspection. Chrétien de Troyes, surtout, a réussi à décrire d'une façon très précise les sentiments que l'on éprouve, par exemple, quand on tombe amoureux d'une dame, et vice-versa aussi. Il est capable de entrer dans l'âme féminine pour décrire cela.
Eh bien, pour illustrer cela, Martin Aurel, cet extrait, ce premier extrait de Chrétien de Troyes, L'amour courtois.
Dame, fait-il, la force vient de mon cœur qui à vous se tient. En ce vouloir m'a mon cœur mis.
Et qui le cœur, beau doux ami?
Dame, mes yeux.
Et les yeux, qui?
La grande beauté qu'en vous je vis.
En quoi a la beauté forfait?
Dame, à ce point qu'aimer m'a fait.
Aimer? Et qui?
Vous, chère dame.
Moi?
Voir.
En quelle manière?
En tel que plus grande ne peut, en tel que de vous ne meut mon cœur et qu'ailleurs ne me suis, et qu'ailleurs penser je ne puis, en tel qu'en vous tout m'octroie et que plus vous aime que moi, en tel que j'en suis comme ivre et pour vous veux mourir et vivre.
Oui, les passions amoureuses figurent de façon centrale dans cette histoire des chevaliers de la table ronde dont nous parlons ce matin, Martin Aurel.
Oui, Chrétien de Troyes est un clerc, hein. C'est un chanoine de Troyes, champenois. C'est donc un homme profondément religieux qui transfère ce que nous appelons l'amour courtois au sein du couple légitimement marié.
D'ailleurs, le couple légitimement marié, sauf certaines exceptions, domine dans ce monde.
Voilà, l'extrait qu'on vient d'écouter, ce sont, pour ainsi dire, les fiançailles, entre guillemets, de Perceval et Blanchefleur. Mais vous avez raison, il y a le cas de Lancelot et de Guenièvre, puisque là, nous sommes en plein adultère, puisque Guenièvre est l'épouse légitime du roi Arthur. Chrétien de Troyes, très astucieusement, au début du Lancelot, du chevalier de la charrette, raconte que, en fait, c'est la comtesse de Champagne, Marie, qui lui a imposé ce sujet, que lui, obéissant, puisque après tout, celle qui lui assure le vivre et le couvert, écrit cette histoire, mais un peu contre son gré. D'ailleurs, il n'a jamais fini le roman. Et c'est vrai que là, c'est une histoire où l'on rompt cette relation traditionnelle au sein du couple, enfin cette relation dans l'œuvre de Chrétien.
Jean Cocteau en a fait une pièce d'ailleurs en 1937 qui s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde, avec un très long dialogue entre le roi et Guenièvre, le roi lui demandant de lui dire si elle l'a trahi ou non avec si séduisant Lancelot.
Oui, c'est sûr que c'est assez... déconcertant pour le roi d'avoir sa femme qui le trompe. En même temps, il faut savoir que Lancelot se comporte d'une façon extrêmement fidèle, loyale, toujours envers Guenièvre. Guenièvre peut être très exigeante. Elle lui demande, comble de l'humiliation pour un chevalier attaché à l'honneur, de se laisser battre dans un tournoi. Alors que Lancelot est le meilleur chevalier du monde, cela ne lui a jamais arrivé.
Mais pourquoi cette perversité de sa part?
Elle veut éprouver son amour, elle veut savoir si Lancelot est à la hauteur de ses demandes. Et petit à petit, elle correspondra à son amour par étapes. Il faut savoir que Chrétien de Troyes est en contact avec un grand troubadour, Bernard de Ventadour. Vous voyez, les troubadours, ce sont des écrivains des compositeurs du sud de la France qui utilisent la langue d'oc et non pas la langue d'oïl qu'on parle au nord de la Loire. Et donc, ce sont les troubadours qui ont commencé à mettre en avant cette façon très sophistiquée, très courtoise, très fine, c'est le terme technique, la fine à mort, de dire la relation entre un chevalier et sa dame. Mais cette dame doit être mariée et le chevalier célibataire. Pourquoi ? Pour une raison très simple, une jeune fille célibataire n'a aucun pouvoir, n'a aucun bien non plus. Et donc, si on veut se soumettre à elle, si on veut lui prêter l'hommage, au sens féodal du terme, si on veut se mettre à genoux et être à disposition de cette dame qui lui imposera ses quatre volontés, ben, il faut qu'elle soit d'une certaine envergure sociale, donc une dame déjà mariée, qui a un pouvoir informel, qui a un patrimoine qui lui est propre. Donc là, nous sommes déjà dans l'adultère. Alors, y a-t-il consommation, y a-t-il adultère, ou est-ce que cela reste au niveau platonique ?
Nous laissons la question ouverte, quitte à frustrer nos auditeurs et auditrices quant à la réalité de ce qui s'est passé. Et je voudrais élargir notre curiosité à l'ensemble de cette communauté que représentent les chevaliers à table ronde autour d'Arthur. Et pour cela, écoutons d'abord un autre texte de Chrétien de Troyes. On est au XIIe siècle, dans ce très brillant XIIe siècle. Il y a une différence d'une génération ou deux avec Monmouth. C'est un extrait du roman Perceval ou le Comte du Graal. C'est une lecture de Jean-Pierre Leroux, à nouveau, dans les Lundis de l'Histoire, en 2008.
Tandis qu'il parlait de choses et d'autres, un jeune noble sortit d'une chambre, porteur d'une lance blanche qu'il tenait en poignée par le milieu. Il passa par l'endroit entre le feu et le lit où ils étaient assis, et tous ceux qui étaient là voyaient la lance blanche et l'éclat blanc de son fer. Il sortait une goutte de sang du fer à la pointe de la lance, et jusqu'à la main du jeune homme coulait cette goutte vermeille. Le jeune homme, nouvellement venu en ces lieux ce soir-là, voit cette merveille. Il s'est retenu de demander comment pareille chose advenait, car il lui souvenait de la leçon de celui qui l'avait fait chevalier et qui lui avait enseigné et appris à se garder de trop parler. Ainsi, craint-il, s'il le demandait, qu'on ne jugeât la chose grossière. C'est pourquoi il n'en demanda rien. Deux autres jeunes gens survinrent alors, tenant dans leurs mains des candélabres d'or pur, finement niellés. Les jeunes gens, porteurs des candélabres, étaient d'une grande beauté. Sur chaque candélabre brûlaient 10 chandelles pour le moins. Une demoiselle, qui s'avançait avec les jeunes gens, belle, gracieuse, élégamment parée, portait un Graal à deux mains. Quand elle fut entrée dans la pièce, avec le Graal qu'elle tenait, il se fit une si grande clarté que les chandelles en perdirent leur éclat, comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Derrière elle en venait une autre, qui portait un tailloir en argent. Le Graal, qui allait devant, était de l'or le plus pur. Des pierres précieuses de toutes sortes étaient serties dans le Graal, parmi les plus riches et les plus rares qui soient en terre ou en mer. Les pierres du Graal passaient toutes les autres à l'évidence. Tout comme était passée la lance, ils passèrent par devant le lit pour aller d'une chambre dans une autre.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Alors voilà Martin Aurel, une ambiance, une compagnie, une richesse, une démonstration de prospérité et de complicité.
Oui, c'est vrai que dans le cortège du Graal, nous avons un chevalier, Perceval, qui est en train de faire un parcours initiatique. Il est parti de très bas, puisque sa mère l'a à peine éduqué à la chevalerie. Et progressivement, il apprend à se comporter en société, à devenir courtois, à guerroyer aussi, non pas à la façon des Gallois. Les Gallois, ce sont des sauvages. Isidore de Séville, dans la grande encyclopédie que tout le monde lit au Moyen-Âge, dit des Bretons que leur étymologie, le terme vient de Brutus, Breton, brut. Et donc, ce sont des gens sauvages, des sauvageons. Donc, ils ne savent pas combattre avec une lance calée sous les selles, avec un galop extraordinaire de leur cheval pour essayer de désarçonner leur adversaire. Ils combattent de loin, lâchement, avec de javelots. Bon, Perceval, avec son javelot, réussit malgré tout à tuer un chevalier, à s'emparer de son armure et de sa pique, de son épée, et il peut combattre les autres.
Donc il y a une promotion sociale en dépit du caractère très, très élitiste de ce monde et assez méprisant.
Oui, je pense qu'au Moyen-Âge, il y a une promotion sociale possible. Ça a été très débattu parmi les spécialistes. Mais on a la possibilité, si on est aguerri, si on est fortuné, de traverser les barrières pour devenir un vrai chevalier et être admis par la vieille aristocratie, par la noblesse.
Alors que nous dit ce beau texte sur cette communauté des chevaliers de la table ronde qui a oui. tellement fasciné depuis lors?
Le terme table ronde n'apparaît pas chez Geoffroy de Monmouth, mais il apparaît chez un clerc des îles anglo-normandes qui s'appelle Vasse, et Vasse utilise pour la première fois cette expression, on est en 1155, pour dire que la table ronde permet d'éviter les querelles des préséances.
Et puis c'est une métaphore du monde aussi, une métaphore.
Voilà, la rotondité très importante, effectivement, du monde. Hein. Le rond est très souvent mondain et très souvent païen par opposition au carré. La table du Graal est carré, qui lui est beaucoup plus religieux, comme l'autel.
Suprématie néanmoins d'Arthur sur les siens, qui sont très dévoués les uns aux autres et qui développent leur égalité, mais en acceptant, on est déjà dans le monde féodal, en acceptant...
Tout à fait d'accord avec vous. On a parfois dit que Arthur était un roi fainéant dans le roman arthurien, qu'il ne faisait rien, mais c'est faux. Déjà, on le voit dans l'iconographie, dans les miniatures de ces beaux manuscrits qui contiennent ces histoires. Il a un siège plus haut que les autres. Il a un vrai trône autour de la table ronde. Et puis, c'est un homme qui est très respecté par les siens. Il peut passer des moments un peu de découragement, de dépression, mais il s'intéresse à ses chevaliers. Quand son neveu Gauvin part et qu'il ne revient plus, il va mettre en branle toute la cour pour aller le récupérer. Donc il y a, de la part d'Arthur, cette attention. Et puis c'est vers lui que les chevaliers reviennent pour leur raconter leurs aventures, leur errance. Et c'est lui qui fait copier toutes ces aventures dans le cadre des romans.
Les autres, alors on a déjà cité Gauvin, Lancelot, Parsifal.
Galad aussi, on a vu Galad. Alors Galad, c'est un personnage très curieux. Il est né des amours de Lancelot et de la porteuse du Graal.
Génération suivante là.
Oui, c'est la génération suivante, absolument. Dans le cortège du Graal, donc Perceval arrive dans une salle où il y a plusieurs demoiselles qui portent le Graal, c'est-à-dire une coupe en ciboire, et la dame qui porte le Graal,
Pucelle.
La Pucelle, est une fille de roi, et Lancelot, lors de l'un de ses voyages, arrive au château du Graal. Il voit cette jeune femme, mais il la confond, il se trompe, il pense que c'est Guenièvre, et il a une relation avec elle, et de cette relation naîtra Galad.
Il était myope?
Vous savez, on est dans le monde de la féerie. Après tout, Arthur lui-même a été conçu parce que son père a réussi à prendre la forme corporelle grâce aux artifices de Merlin, de Gorlois, du mari légitime d'Igerne.
Bon, tout ça, ça bouge beaucoup dans cet univers-là. Et néanmoins, il y a un sentiment d'égalité, de fraternité très fort entre tous ces chevaliers. C'est un des éléments du mythe aussi.
Oui, c'est juste, les chevaliers se respectent et le monde arthurien s'effondre dès lors qu'il y a entre eux un conflit terrible entre deux personnages qui finissent par se détester, Lancelot et Gauvin. Lancelot, malgré tout, est une bonne poire. Il accepte toutes les déconvenues, toutes les attaques de Gauvin. Gauvin est beaucoup plus insidieux et il provoquera donc cette guerre finale où, avec l'aide aussi d'un fils bâtard d'Arthur, qui est Mordred, qui sera le traître, eh bien, tout cela s'effondre à la bataille de Camlann, où Arthur remporte une victoire, mais une victoire à la Pyrrhus. Il est blessé de façon terrible, mais tout à coup, il y a la nef Ophée, sa sœur Morgane vient le chercher, et il est amené à Avalon. Or, Arthur est à Avalon.
Avalon, c'est une île. Le thème de l'insularité est très important dans ce genre de mythe.
c'est capital, hein, les îles Fortunées, ce sont des îles où vous avez des fées aimantes qui possèdent de secrets, notamment pour guérir les blessures, des fées aussi qui vous apportent l'immortalité. Parfois, c'est peut-être des fées perverses qui vous garderont emprisonné, tout comme Ulysse avait été lui aussi emprisonné par la fée. Mais la plupart d'entre elles vous permettront un jour de revenir sur Terre. Et comme l'ours, Arthur va revenir un jour. Et il va redonner la victoire aux Gallois, aux Celtes, qui sont oppressés par les Normands et par les Anglo-Saxons.
C'est le côté cyclique qu'on retrouve toujours plus souvent dans ces mythes. Alors je voudrais que nous en venions maintenant, Martin Aurel, à l'étape suivante, c'est-à-dire la récupération politique de la légende et sa diffusion dans l'espace européen après le XIIIe siècle. Ça revient à évoquer une fois de plus la plasticité de ce mythe qui fait sa force. On va retrouver Henri II, Richard Cœur de Lion, Étienne. Dites-nous un mot de tout ça.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mythe arthurien est un mythe gallois. Or, les Gallois sont en lutte contre les Normands qui conquièrent l'Angleterre à partir de 1066 avec la bataille de Hastings, où Guillaume, duc de Normandie, occupe le monde anglo-saxon et puis aussi il occupe une partie du pays de Galles, ce que les anglo-saxons n'avaient jamais réussi à faire. Or, Arthur est le héros, le paladin de la résistance des Bretons, des Gallois, contre les Normands. Et quand les Plantagenets, la dynastie angevine à partir de 1154, occupent le trône d'Angleterre, Henri II et son fils Richard Cœur de Lion et son autre fils Jean sans Terre, il y a un problème. Comment faut-il récupérer Arthur ? Mais il se débrouille très bien puisque
Il
découvre la sépulture d'Arthur. Déjà, c'est rassurant pour l'Église, pour les clercs, puisque jusqu'alors, Arthur appartenait à ces no man's land, à ces mondes de l'au-delà, d'où venaient les personnages qui étaient morts, mais qui étaient vivants en même temps. Vous savez, dans la mythologie celtique, les frontières entre l'inside et l'au-delà ne sont pas du tout nettes.
Donc là, on passe à la fois aux religieux et aux politiques.
Et aux politiques
aussi. Dans cette
mutation
du mythe. Comment est-ce que Richard, Cœur de Lion et comment est-ce que Étienne font usage de...
Richard, très astucieusement, un cousin qui est l'abbé de Glastonbury, on est encore en Angleterre, mais à la frontière du pays de Galles, et dans cette abbaye, on a déterré deux cadavres très anciens, d'un colosse, d'un homme et d'une femme, dont la tresse disparaît, enfin s'évanouit, dès qu'on la touche. Hein, mais ça, ce sont des éléments que les archéologues connaissent parfois. En déterrant des objets, ils se corrompent. Eh bien, à partir de là, on dit, mais on a découvert le tombeau de Guenièvre et d'Arthur. Ils sont en Angleterre et non pas au pays de Galles. Et moi, Richard Cœur de Lion, veux leur donner un culte. Et d'ailleurs, je récupère l'épée d'Arthur dans son tombeau. Et quand je pars en croisade, je la donne à mon cousin Tancrède de Hauteville, roi de Sicile, pour qu'il me donne des bâtons en échange. Donc vous voyez, c'est la récupération qui commence. D'ailleurs, les historiens des années 1200 parlent non pas d'Arthur en tant que roi des Bretons, mais roi des Anglais. Donc ça commence à changer. Et c'est extraordinaire. Le pire de tous est Édouard Ier, quand il conquiert l'Écosse et le pays de Galles. On a tous en tête cet horrible personnage grâce au film Braveheart avec Mel Gibson, où Édouard Ier, donc, est un personnage qui, effectivement, il avait une puissance militaire, une capacité de conquête terrible, et il a réussi donc à récupérer aussi le roi Arthur pour dire, comme je descends du roi Arthur, j'ai le droit à être seigneur du pays de Galles et seigneur de l'Écosse, comme lui l'était.
L'Église aussi s'empare du mythe pour éviter qu'il lui échappe.
C'est vrai que ça fait désordre, du point de vue de l'orthodoxie catholique, de considérer qu'il y a des morts qui ne sont pas morts, qui ne sont pas dans l'au-delà, dans le ciel ou au purgatoire ou en enfer, et qui peuvent revenir sur terre. Parfois, cela existe, hein, des revenants qui viennent parler aux vivants pour leur dire de mieux se comporter, dans un cadre très catholique et très religieux.
Au centre, il y a la quête du Graal. Alors le Graal, il faut rappeler ce que c'est. Et d'ailleurs, ça peut être deux éléments différents. Ça peut être la coupe ou...
Oui, le Graal, c'est très important, puisque à partir des années 1230, on met en prose toute cette littérature. Or, la prose française, la prose, c'est du sérieux. La prose, c'est du vrai. Et la prose, c'est du religieux, par opposition à la poésie qui est déclamée lors des soirées, lors des veillées aristocratiques. Et dans ces romans en prose des années 1220-1230, le Graal devient la coupe, la sainte coupe, que le Christ avait utilisée lors de la scène pour transformer le vin en son sang. Et ensuite, cette coupe avait été récupérée par un soldat de son entourage, un légionnaire, Joseph d'Arimathie, qui, au pied de la croix, avait ramassé des gouttes du sang du Christ.
Donc la scène ou la croix ?
Les deux, la scène d'une part, la croix de l'autre. Après tout, pour un chrétien, la messe renouvelle le sacrifice du Christ en croix. Donc le vin est transformé en sang du Christ. Et à partir de là, Joseph d'Arimathie préserve cette relique, même quand il est enfermé, emprisonné par les Juifs, dans des textes qui sont parfois très antisémites, et cette sainte coupe continue de l'alimenter.
Alors finalement, les Arthuriens y accèdent ou pas cette...
Oui, puisque la coupe est transportée de façon merveilleuse par un bateau sans équipage, tout à fait à l'ouest, à la fin de la terre, le Finistère, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Et c'est là qu'il atterrit le Graal. Alors, est-ce que c'est à Glastonbury où l'on a découvert la relique d'Arthur ? Est-ce que c'est ailleurs ? C'est au chevalier de Le Quêter.
Nous évoquions, Martin Aurel, en commençant, la prospérité du mythe à notre époque, déjà à l'époque du romantisme. Il y a une période où les choses ne sont pas très, la situation n'est pas très favorable aux chevaliers. C'est à partir, en gros, de la Renaissance du XVIe siècle. Je relève un certain effacement d'Arthur ou de raillerie qui l'entoure. On trouve Rabelais, par exemple, qui se moque des géants et des fées du merveilleux celtique tout au long de Pantagruel, qui date de 1532, où il envoie Lancelot écarisseur de chevaux morts et les autres chevaliers de la table ronde, pauvres gagne-deniers, sur un lac de l'enfer où il rame péniblement au service de quelques diablotin Guilleret. Et dans le cinquième livre, il parodie le Graal en dix bouteilles. Il y a aussi d'ailleurs de l'ironie, bien sûr, dans Cervantes, dans Shakespeare aussi, dans Montaigne. Montaigne qui dit que les histoires de Lancelot du Lac appartiennent à un fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse. Shakespeare n'est pas beaucoup plus favorable avec ses moqueries autour du Merlin, qui est le magicien qui a donné naissance à tout ça, et de l'île de Camelot. On pourrait poursuivre tout ça. Le fond des choses, c'est cette idée qui surgit ou qui se développe au XVIe siècle et au XVIIe siècle que, en somme, ce sont des poivreaux, les chevaliers, et ça devient dérisoire. Alors, juste un petit morceau de la chanson qu'on connaît bien dans les corps de garde, qui s'intitule, comme vous savez, « Chevalier de la table ronde ». Vous auriez été frustré, j'en suis sûr, Martin Aurel, si... Je ne vous avais pas fait entendre ces quelques notes.
Chevalier de la table ronde, bouton voir si le vin est bon.
Chevalier de la table ronde, bouton voir si le vin est bon. Bouton voir, bouton voir, bouton voir si le vin est bon. Bouton voir.
Les romantiques, qu'est-ce qu'ils font d'Arthur et des siens ?
Les romantiques redécouvrent le Moyen-Âge. C'est après le classicisme qu'ils trouvent un peu fade. Ils veulent revenir vers un merveilleux qui les fascine. Et il suffit de songer au Parsifal de Wagner. Il suffit aussi de songer à toutes
ces recréations. Qui est Perceval.
Voilà, Perceval en langue allemande, parce qu'il y a une version du XIIIe siècle de Wolfram von Eschenbach qui parle de Perceval, dont Wagner s'inspire pour le livret de son opéra.
Le XXe siècle aussi n'est pas indifférent. Il y a une utilisation même politique.
Oui, très politique. Vous savez, les Anglais détestent Arthur parce que c'est un Celte, c'est un Breton, c'est un Gallois. C'est un Irlandais aussi, d'une certaine façon, puisqu'ils sont en train de ôter tous leurs droits au peuple irlandais qu'ils oppriment. Dans les années 1920-1930, Chesterton, converti au catholicisme, un grand intellectuel anglais, dit « ce sont les Anglais qui sont des fous » parce qu'ils ne croient pas aux fées. Alors que le monde celtique, le monde irlandais, par exemple, est ouvert à ce merveilleux. Et là, il y a un changement de sensibilité, parce que les Anglais sont fascinés par leurs origines germaniques. Il y a une dynastie, les Hanovres, qui sont au trône des Allemands, et ils considèrent que pour être anglais, il faut être anglo-saxon.
Les Irlandais, mais aussi les Écossais, chez qui Arthur
voilà,
reste populaire.
Ils méprisent les Écossais, ils méprisent les Gallois. C'est le début de la redécouverte de la langue galloise, de la littérature, de l'affirmation identitaire des Écossais. Et puis, il y a la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et là, tout à coup, le monde germanique, le monde allemand, n'est plus persona grata, n'est plus aimé en Angleterre, et pour cause. Et on revient aux sources celtiques de l'Angleterre. Churchill prononce un célèbre discours pour encourager ses troupes à tenir, où il dit « Il faut être comme les vaillants chevaliers de la table ronde qui, sous l'égide d'Arthur, ont réussi à battre les Anglo-Saxons. »
Soutenu par leur courage, par leur force physique et par leurs bons chevaux et armures, contre la barbarie, la tyrannie et le massacre, pour la liberté, la loi et l'honneur. Arthur et les siens retrouvent là du fait de la conjoncture.
Absolument. Puis il y a un engouement aussi qui est, pour le monde celtique, une sorte de néopaganisme, de néodruidisme, des gens qui sont fascinés à partir des années 40, dans l'après-68 aussi, par ces rites anciens, une sorte de retour au paganisme, donc celtique.
Même du côté de Kennedy, on a parlé à un moment donné.
Absolument, Camelot, la Maison Blanche devenue Camelot, puisque c'était un jeune entouré de chevaliers, ça a tranché sur les générations précédentes. Tout à fait, on a utilisé cette image pour parler de Kennedy et ses hommes.
Martin Aurel, pour conclure cette émission consacrée aux chevaliers de la table ronde, je voudrais fixer notre attention en particulier sur un thème que vous avez traité dans un livre spécifique récemment sous le titre « Excalibur, Durandal et Joyeuse, la force de l'épée ». Vous trouvez dans l'épée une sorte d'incarnation de cette force, de ce rayonnement des chevaliers à table ronde. Je voudrais que vous nous l'expliquiez.
Oui, le chevalier est en symbiose pratiquement. Il est en communauté, en communion avec son épée. Quand Roland est en train de perdre son sang, de mourir à Roncevaux, il n'a aucune pensée pour sa fiancée Aude. Elle mourra en apprenant sa mort à lui.
C'est la sœur d'Olivier, on la connaît bien par Victor Hugo.
Absolument.
La belle Aude au bras blanc.
Aude Olivier, qui porte d'ailleurs une épée qui s'appelle Hauteclerc. Hauteclerc qui parle de sa brillance, de sa flamboyance. Or, Roland, qui est en train de mourir, a juste une pensée envers Dieu, où il recommande juste son âme. Et puis, pendant des vers et des vers, il entame un monologue amoureux pratiquement avec Durandal, avec son épée. « Ah, Durandal, que tu es belle, que tu brilles au soleil. Ah, Durandal, c'est avec toi que j'ai conquis la terre des Polonais, des Italiens, des Anglais, etc. » C'est tout à fait surprenant, cette relation.
Eh bien, pour illustrer cela, écoutez cet extrait de La Quête du Saint Graal. C'est un auteur anonyme, environ 1225. Un texte lu par Pierre Vanek dans « Analyse spectrale de l'Occident » de Stanislas Fumet, le 7 février 1959.
Ils y aperçurent une nef derrière une roche où ils ne pouvaient arriver qu'à pied. Lorsqu'ils eurent bien examiné la nef, ils déclarèrent que sans doute sur toutes les mers et les terres, il n'en était point de si belle. Tandis qu'ils la parcouraient, ils découvrirent un drap magnifique étendu en guise de courtine sur un lit d'une extraordinaire splendeur. Galaad souleva ce drap et vit la plus belle couche du monde. Il y avait au chevet une riche couronne d'or et au pied du lit une épée étincelante posée en travers et tirée d'un bon demi-pied hors de son fourreau. Cette épée était d'un luxe très grand et très varié. Le pommeau était fait d'une pierre qui avait en soi toutes les couleurs que l'on peut trouver sur terre. Et autre chose était d'un plus grand prix encore. Chacune des couleurs avait une vertu particulière. Telles étaient les vertus des deux côtés placées à la poignée de l'épée sous un magnifique drap vermeil portant une inscription qui disait « Je suis merveille à voir et à connaître, car jamais nul ne me put empoigner si grande fut sa main, et nul ne le fera sauf un seul. Au nom de Dieu, fit Perceval, j'essaierai d'empoigner cette épée. » Il y mit la main, mais ne put étreindre la poignée, et dit « Je crois bien que ces lettres disent vrai. » Bohor essaya à son tour, et n'y fit rien qui vaille. Ils dirent alors à Galaad « Sire, Essayez de prendre cette épée. Nous savons bien que vous achèverez l'aventure à laquelle nous avons failli. Laissez-moi d'abord en faire l'épreuve, répondit Galaad. Car vous savez bien que nul n'aura cette épée qui ne la puisse empoigner. Si je n'y parviens pas, vous verrez qu'elle ne m'est pas destinée. Il y mit la main, et il se trouva que ses doigts se recouvraient l'un l'autre. Sire, dirent ses compagnons, elle est bien vôtre, et nul ne peut vous empêcher de la ceindre. Il la tira du fourreau, et la lame apparut si claire qu'on s'y pouvait mirer. Ils sortirent de la nef et allèrent au rocher. Perceval dit à Galaad, il ne se passera de jour que je ne remercie notre Seigneur de m'avoir permis de voir s'accomplir la plus haute aventure que j'ai jamais vue.
Ce texte, Martin Aurel, est assez parlant.
Oui, c'est un extrait de La quête du Saint Graal, écrite vers 1225, où les eaux amènent une nef où se trouve l'épée aux étranges attaches, c'est son nom. Chaque épée a un nom, hein. C'est une des caractéristiques du Moyen-Âge. Nous avons Excalibur, dont les noms, en langue galloise, insistent sur la dureté de sa taille. Nous avons ensuite Durandal. L'étymologie du terme est débattue, mais c'est probablement une allusion en langue allemande à sa clarté. Et puis en troisième lieu, nous avons Joyeuse, qui est l'épée de Charlemagne, hein, qui a donné aussi le cri de guerre des Français, Montjoie, Saint-Denis. Et ces épées donc sont destinées à un personnage, nous venons de le voir dans ce texte de la quête du Saint Graal. Seul Galaad peut s'en approprier. Il y a un élu, une vocation qui est souvent liée à cet objet, tellement l'interpénétration, le lien est fort entre le chevalier et son épée. Et cette épée est invincible, cette épée est magique, elle dégage de la clarté, de la lumière. Bien sûr, ce sont des thèmes dont se sont emparés les auteurs de la fantasy de nos jours. On a tous en tête les sabres laser de la guerre des étoiles, par exemple. Mais c'est un thème très médiéval, cette lumière dégagée par l'épée.
Et là encore, les catholiques s'en emparent ou s'assurent d'une certaine prégnance de la religion.
Puisqu'on découvre qu'on met des reliques dans les pommeaux, ça c'est assez surprenant. Le pommeau de Durandal a été pourvu d'une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile, de cheveux de Saint-Denis et de la robe de Sainte-Marie. Et quant à Joyeuse, l'épée de Charlemagne que vous évoquez il y a un instant, on y aura enchâssé la pointe de la lance de la crucifixion.
Oui, c'est surprenant. En fait, c'est une récupération par les chrétiens de thèmes qui sont très païens, qui concernent ces objets qui dégagent de la force eux-mêmes. Bien sûr, c'est dans une autre perspective, puisque les reliques, ce sont des restes des corps des saints qui aident les chrétiens.
On est frappé, Martin Aurel, par un certain chromatisme de l'histoire de cette... Tantôt, ces épées, elles deviennent violettes, et puis elles sont toujours d'une clarté hors de pair.
Oui, haute claire, l'épée de Olivier. Elle dégage de la lumière, il suffit de les tirer de leur fourreau, de leur baudrier, et tout de suite, elles éclairent une pièce. C'est un thème très ancien, on le retrouve dans Beowulf, qui est une chanson épique en anglo-saxon ou en danois, extrêmement ancienne, hein, du 5e, 6e siècle. Eh bien, vous avez ces thèmes qui peuvent être expliqués de plusieurs façons. Il y a l'explication païenne, mythologique, Thor... Par exemple, son marteau devient très souvent un éclair, où il y a aussi des divinités irlandaises, comme l'Ur, qui portent l'éclair dans leurs mains, à la façon d'une épée. Il y a aussi l'explication biblique, dans le livre de la Genèse, le chérubin qui chasse Adam et Ève du paradis, après le péché originel, porte lui aussi une épée en flamme. Mais il y a aussi peut-être quelque chose de plus archéologique, de plus terre-à-terre, de plus historien. Après tous ces chevaliers ou ces poètes passent leur temps dans l'atelier du forgeron. Et ils voyaient comment ils tiraient l'épée du foyer avec des couleurs différentes, jaune, rouge.
Un savoir-faire incroyable d'ailleurs.
Un savoir-faire incroyable. Il faut presque une semaine à temps plein pour frapper une belle épée. Hein, et donc il y a ces martèlements, il y a le fait de la tremper dans l'eau. Il y a tout ce travail, et ça peut aussi donner une idée de sa flamboyance, puisqu'elle est au rouge vif au moment d'être tirée du foyer.
On ne s'étonne pas du coup que la métaphore du glaive ait servi aussi à illustrer l'opposition entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, on peut dire un mot de cela.
Oui, c'est une des grandes révolutions apportées par les évangiles. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Cette séparation, cette distinction, en tout cas, entre le temporel et le spirituel, qui se perpétue au Moyen-Âge, parce qu'on dit qu'il y a deux glaives. Le glaive spirituel, qui tue l'âme, qui est l'excommunication par laquelle l'évêque ou le pape a la possibilité d'interdire le paradis à ceux qui commettent un péché très grave, public. Et vous avez d'autre part le glaive temporel, le glaive corporel, qui lui est appliqué par le pouvoir civil, par le roi, qui seul a la possibilité de se souiller avec le sang versé, puisque les prêtres, eux, n'ont pas le droit à manier des armes.
Remise du glaive par l'autorité spirituelle lors des couronnements au souverain.
Tout à fait, c'est très surprenant. Le sacre royal est opéré, administré par les évêques. Ce sont eux qui remettent l'épée au roi, tout comme la couronne ou le sceptre ou les éperons, les autres symboles, les régalia de la royauté. Et puis, ils oignent le roi avec de l'huile. Ce qui est très curieux, c'est que les évêques ou les prêtres n'ont jamais pris l'adoubement, c'est-à-dire le rite par lequel un jeune devient chevalier.
Hélas, nous allons devoir quitter nos chevaliers de la table ronde, puisque le temps est écoulé, Martin Aurel. J'observe que la dernière phrase de votre livre sur les épées est celle-ci. Dans toute sa modernité, le Moyen-Âge continue de nous inspirer. Peut-être aurions-nous pu prendre cette formule comme épigraphe de notre conversation. Merci d'être venu à ce micro. Donc le livre que j'évoquais s'appelle Excalibur, Durandal, Joyeuse, de point la force de l'épée, aux presses universitaires de France, paru tout récemment en 2021. La légende du roi Arthur chez Perrin était un ouvrage qui a été publié en 2007 et réédité en poche en 2018 par vous. La légende du roi Arthur. Et puis, j'ai naturellement beaucoup utilisé l'ouvrage que vous avez tout récemment publié avec Michel Pastoureau, qui s'intitule « Les chevaliers de la table ronde ». C'est en fait un ensemble de traductions des romans arthuriens dans la collection Quarto chez Gallimard. Et puis, naturellement, chacun fait fond sur la très belle édition de la Pléiade, que vous appréciez, je crois, Martin Aurel.
Beaucoup, oui, elle est très belle, et puis elle est bilingue, donc avec les textes en ancien français, si on veut se reporter à l'original.
Merci. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète, vous le savez, plus complète, et elle est riche, sur notre site, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour la conserver aussi longtemps que la période qui nous sépare du roi Arthur. Et sur le fond d'une chanson extraite du film bien connu de Éric Rohmer, Perceval le Gallois, un film de 1978, on voyait Ariel Dombasle, le jeune Lucchini, etc. Et sur une musique de Guy Robert, d'après des airs du XIIIe et du XIVe siècle, c'est sur ce fond sonore que j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'écouter Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Marc Garvenès à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Arnaud Plançon pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
De son cheval et qui...
Septembre 1972.
L'équipe israélienne participant aux Jeux Olympiques aurait été attaquée cette nuit au village olympique par un commando de terroristes palestiniens.
Ils l'ont vécu. Collection de podcasts originaux de France Culture. La délégation israélienne est attaquée par un commando palestinien. Un événement qui marque la fin de la trêve olympique, le début du terrorisme international. La fête des athlètes à Munich se termine dans un bain de sang. Revivez ce jour tragique avec celles et ceux qui l'ont vécu. Les JO prises en otage par Michel Pomaret et Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France.